Le masque et la plume présenté par Jérôme Garcin.
Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en ce début d'année. Encore sans public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré à l'actualité DVD, VOD du cinéma avec ma chère Sophie Avon, de Sud-Ouest Nicolas Chalère, de l'Obs Jean-Marc Lalanne, le patron des Arts Incorruptibles et avec le patron de Positif, Michel Simon, alias Michael Simon. On parle ce soir d'un chef-d'œuvre, La règle du jeu de Jean Renoir, de Feu John le Carré avec L'espion qui venait du froid, du monde lui appartient, de Raoul Walsh, de L'anglais de Soderbergh, de Pandora d'Albert Lewin, du troisième film de David Fincher, The Game, et du nouveau Pixar, Soul, sorti pour Noël sur Disney+. Dans le courrier de la semaine, Max Bonnefille de Villebon-sur-Yvette s'étonne d'avoir entendu Camille Nevers décréter que John Huston commence à devenir intéressant dans les années 70. Comment ignorer, nous dit Max Bonnefille, des œuvres aussi importantes que Le Faucon Maltais, Le Trésor de la Sierra Madre, Quand la vie dort, African Queen, Les Misfits, et j'en oublie, après Kubrick et Huston, qui sera le prochain cinéaste surestimé, Bergman, Murnau, Ophuls. Mathieu apporte aussi son soutien à Michel Simon. L'homme qui voulait être roi est un véritable chef-d'œuvre. Petite parenthèse, le coffret de la réédition est absolument magnifique, n'est-ce pas, Nicolas ?
Tout à fait.
J'ai été surpris, ajoute Mathieu, et affligé par l'opinion qu'une de vos critiques a se fait du cinéma de John Huston. Je la laisse s'extasier au son. Alors, ça revient beaucoup dans le courrier des chansons niaises de Michel Legrand chez Demi. Je ne sais pas ce que Demi a fait à nos auditeurs, mais il y a quand même, ça relève maintenant de l'épidémie. Et je continuerai. Et pour ma part, de revoir avec bonheur La Nuit de l'Iguane, Dieu seul le sait, ou le formidable African Queen. Yvan Lecor est également d'accord avec Michel Simon, l'homme qui voulut être roi est un chef-d'œuvre de Huston, avec ses anti-héros qui cherchent la grandeur et ne la trouveront que dans la déchéance et la mort. Voilà, par ailleurs, mon cher masque, nous écrit Martin, je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir fait découvrir Elle et lui de Léo Macquaret. Quelle grâce, quelle merveille de cinéma. J'ai ri, j'ai pleuré, bref, j'ai passé une soirée inoubliable. Ce film est parfait pour les fêtes, un vrai miracle. Je précise qu'il est aussi parfait pour après les fêtes. Arnaud Sanquer est heureux d'avoir découvert grâce au masque les deux versions de Elle et lui, celle de 39, dont on a parlé ici, techniquement remarquable, mais aussi celle de 57, dont on a aussi parlé, qui pétille comme du champagne et où le couple Cary Grant, Deborah Kerr, fait dans la malice l'élégance et la flamboyance. Quant au très abondant, très virulent courrier que j'ai reçu, que je continue de recevoir, après qu'on a parlé des tontons flingueurs, je le garde pour le prochain masque, puisque je voudrais que soit présent les quatre critiques qui se sont écharpées à propos du film de Lautner, mais je n'imaginais pas recevoir un tel flot de courriers. Je peux déjà d'ailleurs prévenir pendant 15 jours nos critiques. C'est un courrier relativement partagé. Il y a les fans, mais il y a aussi ceux qui n'aiment pas les tontons flingueurs. Allez, sortie pour Noël en VOD. C'est la seule nouveauté, si j'ose dire, de ce soir. Et en exclusivité sur la plateforme Disney+, Soul, le nouveau film d'animation des studios Pixar, réalisé par Pete Docter et Kemp Powers. Le héros est Joe Gardner, un prof de musique qui rêve de jouer dans le meilleur club de jazz de New York. Mais après un accident qui provoque la séparation de son corps et de son âme, il est propulsé dans le grand avant, c'est-à-dire un lieu fantastique, je cite, où les nouvelles âmes acquièrent leur personnalité, caractère et spécificité avant d'être envoyé sur Terre. Bien décidé à reprendre le cours de sa vie, il va épauler 22, une âme qui n'a jamais saisi l'intérêt de vivre une vie humaine. En somme, le nouveau Pixar, visuellement, il faut dire assez ébouriffant, est un dessin animé, j'allais dire métaphysique, mais même un peu mystique. Et dans la version française, je précise que c'est Omar Sy qui prête sa voix à Joe Garner et Camille Cotin, qui est la voix de 22. Oui, c'est assez surprenant, non, Nicolas, cette version métaphysico-mystique d'un film de fin d'année pour les fêtes des studios Pixar, non?
Oui, pour moi, c'est une vraie merveille. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que fait Pete Docter encore et toujours, j'ai envie de dire, parce que c'est pas nouveau, c'est sa quatrième réalisation. Il manifeste une ambition et une audace, une inventivité qui a été perdue dans le cinéma de divertissement. Et lui, il le fait en plus dans le domaine de l'animation, qui est souvent un peu bêtement réduit à un public enfant. Et lui, il fait vraiment un film familial. Alors, je le conseille plutôt à des enfants d'au moins 8 ans, parce que c'est quand même un petit peu compliqué. Oui. Mais avec une ambition folle, effectivement, métaphysique. C'est-à-dire qu'on peut voir... c'est intéressant, pour en avoir parlé avec lui, lui-même a fait des études de philosophie, et il le dit avec une grande modestie. Il dit, oui, d'une certaine manière, Joe, le jazzman, c'est Platon, c'est l'idée qu'on a une fonction sur Terre, et cette idée qu'on est là pour quelque chose, et 22, la petite âme qui ne veut pas aller vivre sur Terre, c'est Nietzsche, c'est le nihilisme, cette espèce de pulsion de destruction. Et c'est marrant comment il part de concepts comme ça, très ambitieux et très, on va dire, philosophiques, et comment il en fait un spectacle à la fois totalement lisible et avec une audace conceptuelle. On peut parler des deux mondes, ça aussi c'est passionnant. C'est-à-dire qu'il y a à la fois presque un film de Spike Lee dans une communauté, la communauté black à New York. Ce photoréalisme assez ébouriffant et vraiment très très beau, ces couleurs automnales, ce côté groovy de cette ville, est en même temps assez oppressant, finalement. Et en même temps, ce monde qu'il a créé, donc ce monde de l'avant, et de le grand avant et du grand après, on est entre le surréalisme et le psychédélisme dans un environnement qui doit autant aux ordinateurs Mac qu'à Picasso, quoi. Il y a vraiment comme ça une mélange des influences folles, et il en fait un spectacle ébouriffant, avec un sens de... Il y a un nombre de répliques inoubliables fous, et c'est... voilà, moi, je trouve que c'est vraiment un aboutissement assez dingue. Alors après, c'est peut-être pas aussi émouvant, peut-être, que vice-versa. Et en même temps, je trouve que la fin, comme ça, où c'est juste, je ne vais pas la raconter.
Non, il ne faut pas la raconter.
Elle est très modeste, c'est rien, ouais. Mais c'est tout en fait. C'est quelqu'un qui redécouvre le monde, le bonheur d'être au monde, le goût des premières fois, mais il y a aussi là-dessus. Et ce n'est jamais simpliste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout l'envie de moralisme à l'américaine. Et pour moi, chez Docter, il y a quelque chose de Capra, c'est-à-dire de rendre simple et abordable à tous des idées très complexes et de faire du divertissement généreux. Il y a même un peu cette idée aussi d'individualisme, mais ça, on ne va pas le développer, mais qui, enfin, un individualisme qui aide au collectif. Quoi.
J'ai regretté, si tu permets, de ne pas le voir sur grand écran. Je pense que
là, pour le coup... Je suis tout à d'accord, et je pense que l'émotion qu'on n'a pas, voilà, elle vient aussi du fait qu'on n'est pas dans une grande salle.
Sophie.
Entre bonnes âmes, si j'ose dire.
Ben c'est peut-être ça alors, parce que moi j'avoue que je suis restée complètement extérieure au film.
C'est vrai ?
Oui, et pourtant je reconnais qu'il est visuellement très beau. J'ai adoré Vice Versa, j'ai adoré Là-haut. Je suis très subjuguée par le début. Je trouve que cette entame dans le royaume des morts est magnifique et très étonnante, avec ces figures qui, tu as dit, Picasso, c'est Miro aussi, enfin, qui sont des assemblages, des chants quantiques. Enfin, ça paraît très compliqué. En fait, c'est simplifié pour notre pauvre esprit humain, et c'est d'ailleurs dit comme ça.
Cela dit, ça, je ne sais pas ce que peuvent y comprendre les enfants.
Oui, mais c'est très amusant pour nous, en tout cas. Et comme il y a cette longue marche, ce long convoi vers le tunnel blanc, enfin, vers cette lumière blanche qui représente la mort et tout, c'est assez original. Et je me suis dit, chic, on va tomber dans un truc très neuf et très original. Mais c'est le pré-générique, et après, quand on tombe dans la vraie vie, oui, c'est vrai, c'est bien fait, oui, c'est vrai, c'est... Mais franchement, me divertir avec l'idée que... Je suis d'accord sur Nietzsche, sur la philosophie, sur l'opposition. Est-ce qu'on a une fonction sur Terre? Est-ce qu'on est sur Terre parce qu'on a une vocation? Ou est-ce qu'on ne sait pas ça? Mais entendre ce message que j'ai l'impression, malgré tout, qui est rebattu, de finalement, ce qui compte dans la vie, c'est pas l'amour, c'est pas la vocation, c'est simplement... les petites choses simples.
Non, c'est pas si simple que ça.
Le petit bout de pizza dans la rue, la petite feuille qui tombe du... Eh bien, je sais pas, j'étais peut-être pas...
C'est le côté Philippe Delerme que tu n'as pas aimé.
Peut-être, mais
justement,
franchement...
c'est simple, je trouve. C'est plus nuancé que ça.
Non, mais je dis pas que le film n'est pas nuancé. Je dis pas... Il a sûrement des qualités. Je dis juste qu'elles m'ont échappé, que ça ne m'a pas beaucoup intéressée, que je me suis ennuyée, et je ne suis pas sûre que ça divertisse beaucoup les enfants. Après, bon, ça retombe...
Moi, c'est la question que je me pose, effectivement.
Voilà, parce que... Et du coup, ça va pas assez dans le côté philosophique, à mon avis. Ça ne n'affronte pas assez ce que le film veut vraiment interroger. Ça ne va pas assez dans la mort... parce que pour le coup, ça commence par ça, mais ça n'ose pas aller trop loin. Et finalement, on se retrouve dans un truc que j'ai trouvé, encore une fois, très fabriqué, très convenu.
Michel ?
Alors moi, c'est le contraire. C'est-à-dire, je pense au contraire que c'est un film qui s'adresse à la fois aux enfants de 7 ans et aux gens de 77 ans. Parce qu'en fait, les seules personnes qui se posent vraiment des questions métaphysiques, alors que les adultes sont dans le quotidien, dans le matérialisme, dans des tas de problèmes, les seules personnes, c'est les enfants se posent de vraies questions métaphysiques. Qu'est-ce qui a donné le nom aux choses ? Des questions comme ça. La mort, dans l'enfance, on pense à la mort beaucoup plus qu'à 30 ans. Et je pense que le film, de ce point de vue-là, donc, est un film parfaitement adéquat pour des vieillards comme moi et pour des enfants de 7 ans.
Sauf qu'il n'est pas métaphysique,
et alors,
en fait.
D'autre part, je pense que l'animation aussi, on oublie que, évidemment, il y a beaucoup de Disney a un peu prostitué l'animation dans une sorte de bon sentiment et de graphisme très ordinaire. Mais il ne faut pas oublier que l'animation a toujours été en avance sur le cinéma. Des gens comme McLaren, des gens comme Trinka et d'autres ont été des innovateurs comme Kandinsky ou comme Miro. Et d'ailleurs, dans ce film, on pense, tu as parlé de Picasso, mais Miro, on peut penser à Miro ou à Kandinsky. Donc il y a une sorte d'expérimentation visuelle qui est absolument étonnante. Et ce que je trouve très beau dans le film, c'est le mélange justement de quotidienneté, c'est-à-dire le New York très réaliste, avec des bouches de métro, les gens dans la rue, etc., qui sont peints avec un pinceau, en tout cas à l'ordinateur, de façon très réaliste. Et puis l'onirisme, avec ce grand avant, le centre de formation des armes, etc. Et puis ces personnages fluorescents. Donc c'est une beauté visuelle et d'une invention absolue. Évidemment, Sophie, je comprends ce que tu dis, mais ce n'est pas pour moi ce qui ressort, ce côté gnangnan, il n'y a rien de plus beau qu'une feuille qui tombe, etc. Non, moi, j'ai vu vraiment essentiellement une imagination et un délire visuel et imaginatif extraordinaire.
Jean-Marc ?
Oui, moi, j'aime bien le film, sans trouver ça non plus immense. Et je suis à la fois totalement d'accord avec ce que dit Sophie. Moi aussi, j'étais gêné par le côté extrêmement consensuel de cette fin. Et en même temps, j'ai revu La vie est belle, qui était diffusée récemment sur Arte. Et en fait, je pourrais avoir le même grief contre La vie est belle, et je pense que pour certains grands films américains, la vérité du film n'est pas dans la résolution du récit. Le happy end est une convention, et la vérité du film, elle est avant, et je trouve que dans ce film-là, il y a vraiment un moment sublime, où on pense que là où va s'acheminer le récit, c'est l'acceptation d'être mortel et l'acceptation de mourir, une sorte de stoïcisme, et là je me suis dit vraiment, si la fin du film c'est ça, qu'il va accepter sa mort, c'est sublime. Finalement, c'est pas ça, c'est quelque chose de beaucoup plus doux à entendre, mais malgré tout, le film a dit ça, même s'il n'a pas complètement le courage de le tenir. À un moment donné, c'est montré, c'est envisagé. Je pense que ça frappe l'imaginaire d'un enfant pour toujours et que le film sait mettre comme ça le doigt sur des choses fondamentales d'une expérience humaine.
C'est donc Soul, c'est uniquement visible sur Disney+. J'imagine qu'il y aura après des DVD ou qu'il y aura moyen de le voir si on n'est pas forcément un familier de la plateforme.
Espérons.
Non,
bah espérons, c'est ce que c'est.
Voilà, à défaut
Disney,
de le voir.
Disney Plus, d'ailleurs, je trouve que Plus est important parce que c'est plus que Disney.
Allez, la règle du jeu de Jean Renoir. Vous écoutez bien Le Masque et la Plume, vous êtes bien en 2021. La règle du jeu de Jean Renoir, film culte de 1939. Qui ressort en DVD Blu-ray aux éditions ESC dans ce qu'il appelait lui-même un drame gay ou une fantaisie dramatique. Jean Renoir, qui s'inspire, vous le savez, des caprices de Marianne de Musset et du jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, peint à fresque l'aristocratie, la grande bourgeoisie d'avant-guerre et leurs nombreux domestiques avec au cœur de ce que Truffaut appelait le film des films, la belle propriétaire de la Collinière en Sologne, où se joue au propre comme au figuré une partie de chasse, dont l'invité de marque est André Jurieux, héros national depuis sa traversée de l'Atlantique en 23 heures, à l'époque un record, avec Marcel Dalliot, qui joue le marquis Robert de la Chesnaye, sa femme, jouée par Nora Grégoire, Julien Carrette en braconnier, Roland Toutain dans le rôle de l'aviateur André Jurieux, la camériste Paulette Dubost, et même Jean Renoir dans le rôle d'Octave, pour qui il y a une chose terrible sur cette terre, c'est que tout le monde a ses raisons. Film sorti au pire moment, en juillet 39, qui fut un échec en salle, qui a été censuré pendant l'occupation, avant de devenir, toujours selon Truffaut, le credo des cinéphiles. Je me tourne évidemment vers Michel.
qui était à la projection de presse du film.
Alors c'est évidemment un chef-d'œuvre. Dans les différents sondages que, par exemple, Sight and Sound fait tous les 10 ans, il est toujours dans les 3 plus grands films de l'histoire du cinéma, avec Citizen Kane et Vertigo. Bon, ça peut se discuter, mais en tout cas, c'est un film immense, c'est sûrement le plus grand film de Renoir. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un peu un malentendu sur ce film à cause des déclarations de Renoir lui-même, qui adorait dire ce que les gens aimaient entendre. Alors, au dos du DVD, il y a sa déclaration de 62 dans laquelle il dit « C'était une société pourrie, et j'ai voulu montrer qu'elle était pourrie. Et d'ailleurs, je trouve que la société d'aujourd'hui est toujours aussi pourrie. » Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour moi, ce n'est pas du tout une description d'une société pourrie. C'est au contraire, on pourrait dire, un film d'une certaine façon, je pense qu'il y a une part de Renoir qui est nostalgique de cette France ancienne, de cette France comme son père d'ailleurs. Et donc, ce qui est évidemment formidable dans le film, c'est le manque d'affectation. C'est un film qui est d'un naturel absolument extraordinaire et très rare pour l'époque. C'est-à-dire que, par exemple, Renoir, il n'y a jamais le point de vue de quelqu'un sur quelque chose. C'est toujours plusieurs points de vue. Donc, il n'y a pas d'identification possible avec un seul des personnages. Deuxièmement, c'est un film où il y a énormément de caméras mobiles. Les gens sortent du champ, etc. On les recadre, etc. constamment. Donc, il y a une sorte d'aisance extraordinaire avec l'espace. Et puis, c'est aussi un film sur la société. Je ne trouve pas du tout que ce soit des gens pourris. C'est, au contraire, c'est un film très généreux qui montre les gens dans toutes leurs contradictions. Avec, ils trompent leurs femmes, en même temps, ils les aiment, etc., etc. Donc, c'est un film somme. C'est un film vraiment somme qui regroupe énormément de choses. Les rapports entre domestique et patron, par exemple. La scène de la chasse, qui est un chef-d'œuvre. Je voudrais citer une phrase de Renoir, qui parlait de son père. Et son père aimait beaucoup une phrase de Lavoisier qui disait « Dans la nature, rien ne se crée, rien n'est perdu, tout est transformé. » Et ce côté fluidité qui correspond d'ailleurs à l'impressionnisme en peinture, c'est cette fluidité qui, à mon avis, caractérise la règle du jeu.
Et je voudrais moi ajouter que les références théâtrales, évidemment très fortes dans ce film, expliquent pourquoi la version qu'avait donnée la Comédie française de la règle du jeu était, à mon avis, si réussie. Jean-Marc.
Oui, je pense aussi qu'il ne méprise pas du tout le monde qui filme. Je pense même qu'à un moment donné, il peint une utopie. Lorsque le chaos règne, lorsque le désordre, le principe de désordre est à son plus fort régime, c'est là que le monde est magique et désirable, parce que tout le monde échange sa place, tout le monde devient un autre, et il y a un moment comme ça d'affolement total, de tournis qu'il filme de manière admirable, qui est une société rêvée, et puis il y a tout à coup la violence, ça peut être un coup de fusil, ça peut être une guerre, ça sera une guerre, qui tout à coup remet tout le monde à sa place et renforce tous les principes d'exclusion. C'est la fin absolument sidérante du film. Moi, en revoyant le film, que j'ai vu vraiment plein de fois dans ma vie, et bon, c'est très banal de dire ça, mais qui est un de mes films préférés, j'étais vraiment ébloui par la façon dont c'est à la fois un sommet de l'art français, comme tu l'as dit, c'est Beaumarchais, c'est Marivaux, c'est un récit purement français, avec ce principe de chassé-croisé, quelque chose qui est du pur cinéma français aussi, dans l'organisation du récit, là encore, mais aussi quelque chose qui... dont on ne trouve d'équivalent, à mon avis, que dans le plus grand cinéma américain, dans la maîtrise de l'espace, de la profondeur de champ, qu'il n'y a que les plus grands cinéastes d'action et les plus grands cinéastes de comédie musicale qui savent, à ce point, gérer des embouteillages dans des couloirs, orchestrer des rondes, filmer 3 plans d'action dans un même plan avec une profondeur de champ qui est vraiment vertigineuse et qui ouvre, même, je dirais même, un espace de pensée qui est infini. Donc voilà, c'est un des plus grands films du monde.
Et encore, aucun de vous deux ne parle des comédiens qui sont tous assez époustouflants.
Laura Grégoire, ça, je pense que... Oui.
Attendez, je parle de la distribution en général. Sophie.
Oui, c'est magnifique, c'est d'une folle modernité, quoi. C'est fluide, c'est rapide, c'est espiègle, c'est cruel aussi. Alors c'est vrai, la scène de la chasse, tout le monde en parle, mais juste avant ça, quand ils font sortir les lapins du bois de bouleau, qui s'est filmé avec une rapidité, une beauté, c'est tellement beau, ce noir et blanc lumineux, qu'on dirait de la couleur, quoi. C'est incroyable. Et alors il y a un truc qui m'a frappé là, c'est qu'ils passent leur temps à se toucher. Alors, c'est vrai qu'on est
une époque où on le regrette beaucoup.
Alors, non seulement on a les masques et on est interdit de ces gestes-là, mais on est quand même dans une société où on n'a plus un rapport tactile aux autres, ou très peu. Là, c'est des gosses, quoi. Ils passent son temps à s'embrasser, à rouler sur le lit, à s'attraper. Et ce que je crois très important là-dedans, c'est que c'est vraiment, d'ailleurs, c'est dit dans le film, ce sont des enfants. En effet, c'est pas un monde pourri, je suis d'accord avec toi, Michel. Il filme au contraire des jeunes gens qui, malgré leur... Enfin, des gens qui ont un rapport très libre, très juvénile avec leur corps et qui sont innocents. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que c'est un film de 38 et que c'est un film aussi vivant. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il va filmer la disparition d'une innocence et qu'il est là, 82 ans plus tard, on a l'impression que Renoir nous dit « Regardez comme nous étions vivants ». Et ça, c'est absolument magnifique dans le film.
Nicolas,
C'est exactement ce que j'ai ressenti. J'ai été étonné de la vivacité du film, de ce, ouais. Voilà, ce côté. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on le revoit, il revit devant nous. Et moi, ce que j'ai vu en le revoyant là aussi, j'ai vu quelque chose qui m'avait pas marqué à ce point-là. C'est effectivement, c'est à la fois comment il synthétise, il incarne une bascule entre ce que vous avez dit, la tradition. Alors, vous avez cité Beaumarchais, tout ça, une certaine tradition
plutôt
française.
Plutôt Musset que Beaumarchais, hein, mais bon.
Voilà. Mais et puis une forme de modernité, comme l'a dit aussi Jean-Marc, dans la manière de filmer. Moi, ça me fait presque penser à du Ophuls parfois, les moments de caméra, ou même à quelque chose de la nouvelle vague dans des moments dans, un peu en retrait,
la ronde,
ou comme
oui,
ça.
Oui.
Et ce qui m'a aussi vraiment marqué en le revoyant, c'est à quel point la violence s'immisce petit à petit, et comment effectivement tout ça est assez joyeux, et comment, à part une petite phrase comme ci par-ci, il y a la xénophobie, l'antisémitisme, et comment petit à petit, mine de rien, quand on arrive à cette explosion de folie qui est effectivement très joyeuse, au bout du compte, ça va être un type, un Schumacher, c'est pas innocent non plus, un Allemand, qui se balade avec un flingue et tout le monde prend ça pour une attraction. Et il va finir par quand même y avoir un drame et une tragédie. Et c'est fou comme il arrive à intégrer quelque chose d'universel et d'intemporel, et d'une philosophie de vie, et en même temps, l'époque
Je rappelle juillet 39, voilà, la sortie 39, du film.
L'époque, oui, d'ailleurs, Nora Gregor, qui est autrichienne, que tout le monde convoite, c'est peut-être pas non plus un hasard. Après, je suis d'accord avec Michel, je trouve que le jeu de Nora Gregor a vieilli, un côté très diva.
Non, moi, je trouve sublime, au contraire, je trouve qu'elle apporte
quelque chose
qu'aucune actrice française de l'époque ne pouvait apporter. Je la trouve extraordinaire.
Mais c'est cohérent. Après, moi, ça m'a gêné. Parce que,
imaginez Daniel Darieux à la place. Ouais.
Ça m'a un peu gêné, mais c'est cohérent.
Elle était trop jeune en 39, Darieux. Elle n'était pas le personnage, il faut une femme de 40 ans.
Et puis, il faut aussi repenser au tribut, Downton Abbey doit beaucoup, beaucoup à la règle du jeu.
Ah, ça, j'aurais pas pensé à ça du tout. Mais heureusement que tu es là pour nous le rappeler. On a pris plus de temps, on aura évidemment moins de temps pour évoquer les films qui vont venir. C'est donc La règle du jeu de Jean Renoir. C'est une ressortie chez ESC. Voyez-le, revoyez-le. Et surtout, si vous avez besoin de vous toucher les uns les autres, n'est-ce pas, Sophie? Surtout, revoyez-le plusieurs fois. Le film le plus tactile de la saison. Allez, il devait ressortir le 7 janvier en copie restaurée. C'est Pandora d'Albert Lewin, film de 51 avec Ava Gardner, James Mason, Nigel Patrick, qu'on trouve en DVD Blu-ray, mais aussi en VOD sur le site de la Cinéthèque. Pandora, Reynolds, campé par Ava Gardner, chanteuse américaine de passage en Espagne, où tous les hommes la convoitent et pour laquelle le poète De Marais, qu'elle a éconduit, se suicide. Reste le pilote de course Stephen, c'est Nigel Patrick, qu'elle accepte d'épouser, le matador Montalvo et surtout le navigateur Hendrik van der Cie, le légendaire Hollandais volant condamné à errer sur les mers et joué par James Mason, qui croise sur son yacht au large du port d'Esperanza. Un film relativement long pour l'époque, puisqu'il fait plus de 2 heures. Est-ce que tu l'as revu, Sophie?
Oui, je l'ai revu plusieurs fois dans ma vie. C'était un film qui faisait partie de mon panthéon personnel quand j'avais 20 ans.
Et pourquoi?
Pourquoi? Non, sans doute parce que j'étais très jeune. Et le revoyant,
à cause du Hollandais volant.
Je trouvais ça magnifique, symbolique, flamboyant, romantique. Je trouvais ça extraordinaire. C'était et j'avoue que le revoyant si longtemps après, je trouve que j'ai pris et il a pris un coup de vieux terrible.
Alors, petite parenthèse, depuis un an qu'on fait beaucoup beaucoup de rééditions, ça nous est souvent arrivé de vivre sur des images nostalgiques.
Bien sûr, c'est ça qui est génial.
Films qu'on avait adorés, et puis à la revoyure. Parce que le mot est à la mode.
Oui, mais alors
c'est parfois un peu douloureux.
Ce qui est très intéressant quand même, c'est que on vient de parler du film de Renoir qui est 12 ans avant, qui est un film d'avant-guerre et qui est un film vivant, sur des vivants. Et là, on est 51, je crois, à l'après-guerre finalement. Et c'est un film sur la mort, de mort, et c'est un film relativement mort. Alors là où il est intéressant, c'est qu'il faut le regarder un peu. Alors je ne sais pas si c'est par respect pour la jeune fille que j'étais, mais j'ai un peu l'impression qu'il faut que j'ai des précautions, comme le personnage de Geoffrey a des précautions avec le vase qu'il essaie de recoller pendant tout le film. C'est un objet un peu antique, maintenant, ce film. Alors, évidemment qu'il a vieilli, évidemment que la façon dont les pêcheurs rient au début, par exemple, ça passe plus aujourd'hui. La façon dont ils regardent le torero, qui est évidemment, parce qu'il est espagnol et parce qu'il est torero, éruptif et jaloux.
C'est très ultra-folklorique, quand même, là.
C'est quand même, on est dans le pittoresque, quoi. Voilà. La seule, d'ailleurs, qui n'a pas pris une ride, c'est Ava Gardner, parce que je trouve qu'elle a un jeu D'abord, elle a une beauté très moderne et elle a un jeu, je trouve, relativement naturel.
On ne la voit pas assez au cinéma aujourd'hui.
Non, mais quand arriver à dire à James Mason, j'éprouve pour toi un amour plein de spiritualité, comme elle dirait Pasquale Selle, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais bon, voilà, on est partagé entre l'envie de regarder ce film avec comme un objet curieux et où il y a une composition quand même qui est belle, etc. Et en même temps, on est obligé de dire aux gens, bah oui, il a quand même sacrément vieilli, quoi.
Nicolas,
c'est un film que je trouve à la fois, je suis très admiratif parce que je trouve qu'il a, voilà, Albert Lewin visiblement était un peu un cas à part à Hollywood et c'est comme ça une espèce d'esthète qui et je trouve qu'il arrive à plusieurs moments du film à créer vraiment comme ça une ambiance vraiment surréaliste dans son mélange. Moi, je le vois un peu comme un DJ de l'époque qui mélange plein de cultures, de mythes. Et il prend pas du rap, du rock, de l'électro, lui il prend le mythe de Pandore, il prend la culture, le folklore espagnol puisque ça se passe sur la Costa Brava. Il prend même on pense à des personnages, enfin penser à des personnages de Fitzgerald des années 30 comme ça, des espèces de mondains oisifs qui s'ennuient un peu et qui se parlent d'amour tout le temps. Et puis ces statues grecques qui posaient sur la place, tout ça, ça crée vraiment un univers complètement onirique. Et alors il faut parler quand même de la photo. Moi, ce que je trouve toujours sublime, c'est la photo de Jack Cardiff. Espèce de photo comme ça de sépia doré, on a l'impression qu'on est à la fois dans un rêve fait de statues. Enfin, c'est très. Et je trouve qu'il y a quand même cette beauté-là, elle est toujours là. Et la manière dont il filme avec Garner, on sent qu'il est fasciné par sa beauté. Et il y a effectivement une forme de quelque chose de très moderne dans son personnage. Dans ce que, et en même temps, et elle nous fascine alors qu'elle est quand même insupportable. C'est une garce, elle incarne vraiment tout ce qu'on peut voir de la femme fatale dans son idée la plus.
Elle séduit les hommes extrême. Et les hommes.
C'est un drôle, et en même temps, je trouve que James Mason est très guindé. Donc, c'est un espèce de film patchwork comme ça que je trouve à la fois fascinant et effectivement un petit peu vieillot.
Jean-Marc.
Non, moi, c'est un film que je revois toujours avec les yeux de Sophie à 20 ans. En fait. je suis totalement ébloui par ce film à chaque fois que je le revois. Alors, contrairement à la règle du jeu, j'ai pas envie de dire que c'est un des plus beaux films du monde, mais c'est un des films qui montre comme la quintessence de ce que peut un certain temps historique du cinéma, disons le classicisme hollywoodien, ou légèrement glissant vers son décadentantisme. Je sais pas si j'ai dit les bonnes syllabes dans le bon ordre. Il y a quelque chose d'un peu décadent dans le film, mais je trouve ça sublime. Albert Lewin, c'est un cinéaste qui est souvent méprisé parce qu'on le trouvait trop maniéré. Mmh. Il a fait souvent des adaptations littéraires. Moi, j'aime beaucoup son Bel Ami, j'aime beaucoup son Dorian Gray. Pour moi, c'est son chef-d'œuvre. Oui. Et je trouve que le lien entre le cinéma et l'activité onirique est rarement aussi interloquant que dans ce film-là. Chaque plan, c'est un chiricot. Il y a un côté extrêmement Dali dans le film. C'est une espèce de poème d'amour fou, surréaliste. Et ça paraît un peu cucu de dire ça, mais c'est sur la magie du cinéma, sur son pouvoir de fascination, sur son aura. L'aura du cinéma, pour moi, c'est Pandora.
Bah, on voit que Jean-Marc n'a pas vieilli, en fait. Il a gardé son âme de jeune cinéphile. Michel ?
Moi, je suis partagé sur ce film. C'est-à-dire que d'une part, c'est vrai que c'est un phénomène français, l'admiration pour Pandora. C'est les Français qui ont fait le côté légendaire de ce film, un film légendaire nourri lui-même de légendes.
Tu veux dire qu'aux États-Unis, ce n'est pas le cas ?
Non, pas du tout. Puis d'ailleurs, le film a été très mal accueilli, etc. Donc, non, ce qui est intéressant, c'est le côté effectivement très cultivé d'Albert Lewin. Comme tu l'as dit, il a adapté Oscar Wilde, il a adapté Somerset Maugham, il a adapté Maupassant. Là, il adapte une légende, etc. Et puis, c'était un homme qui fréquentait les surréalistes, un ami de Man Ray, de Marcel Duchamp, etc. Donc, les Français ont été sensibles à ça. C'est le côté surréalisme. Et en même temps, le surréalisme, c'est un surréalisme très appliqué. Alors moi, qui suis un très grand admirateur du mouvement surréaliste, je vais faire une critique. C'est-à-dire que c'est vrai que dans certains peintres surréalistes, pas tous, certains peintres, le sujet est plus important que la matière. C'est-à-dire, quand on regarde certaines toiles, je ne parle pas de Miro, je ne parle pas, bien sûr, de Max Ernst, mais chez certains surréalistes, ce qui est intéressant, c'est l'imaginaire, mais la toile elle-même, le travail pictural, pas comparable du tout à Picasso, à Matisse ou à des gens comme ça. Et ce que je reproche à ce film, c'est d'être effectivement assez académique. C'est-à-dire, c'est un surréalisme appliqué.
Tant c'est vraiment fou, la matière, si on prend, par exemple, le rouge de la robe de Garner frappe l'esprit comme jamais. C'est vraiment un film de texture et de matière.
Oui, mais si tu prends, par exemple, 10 minutes de Laura de Preminger, quand on découvre Laura, le tableau de Laura, si tu prends 10 minutes d'un Raoul Walsh, comme La Vallée de la Peur, le début avec... eh bien, il y a un mouvement, un moment surréaliste par quelqu'un qui ne connaît même peut-être pas le surréalisme. Tandis que là, c'est quelqu'un qui connaît trop le surréalisme.
C'est Pandora, c'est Albert Lewin, et c'est notamment sur le site de l'excellente Cinéthèque. Allez, rapidement, The Game, le troisième film de David Fincher, le réalisateur de Mank, dont on débattait plutôt, ici même en décembre.
avec Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Kara Unger. Film de 1997, on se rapproche, dont la copie restaurée à partir du négatif original paraît à l'atelier d'image. Nicholas Van Orton, c'est donc Michael Douglas, un richissime homme d'affaires, divorcé, sans enfant, vit à San Francisco. Il s'apprête à fêter ses 48 ans, c'est l'âge qu'avait son père lorsqu'il a mis fin à ses jours. Nicholas, qui a un petit frère, Conrad, c'est Sean Penn, ancien toxico, qui a l'idée de lui offrir pour son anniversaire la carte d'une société spécialisée dans l'organisation de spectacles. Et elle va proposer à Nicholas un jeu de piste, enfin une sorte de jeu de piste, qui va vite être incontrôlable et tourner, mais on ne va pas en dire davantage, au cauchemar. C'est du Fincher pur jus. Qu'en pensez-vous en le revoyant aujourd'hui, Jean-Marc?
Moi, j'ai peur en fait, de découvrir par cette émission que je suis psycho-origine, parce que contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, je pense toujours la même chose des films, même si je les vois à 20 ans de différence. Et The Game, c'est un film que j'ai vu à une époque où je n'aimais pas beaucoup David Fincher et je n'aimais pas beaucoup le film. Entre-temps, il y a eu Zodiac, il y a eu Mindhunter, beaucoup de choses que j'aime beaucoup de Fincher. Et je me suis dit, en fait, je vais redécouvrir The Game. Et c'est un film que je trouve extrêmement empâté, lourdingue, fastidieux. On sent un peu que c'est le moment où il se sent vraiment un auteur surpuissant après le succès de Seven et qu'il va se dire maintenant la partie elle va se jouer entre Kubrick et moi. Donc il y a le côté comme ça, fort à bras, qui arrive avec des effets très très imposants. Et en même temps, c'est du pur Fincher, c'est-à-dire c'est l'affrontement entre quelqu'un qui est dans la manipulation et quelqu'un qui est dans le décryptage, comme les serial killers et les enquêteurs dans ses autres films. Sauf que là, c'est extrêmement monotone, parce que la manipulation, elle est toujours d'un seul côté, et Michael Douglas traverse le film comme un pantin.
Oui, il a un jeu un peu monocorde.
Lui est monocorde, mais aussi dramatiquement, le film est très monocorde. Mmh. C'est vraiment un exercice de manipulation qui n'est pas tellement relancé dramatiquement. Il n'y a pas des moments où ça devient dialectique, où ça s'inverse, comme dans les grands films de Fincher, où le manipulateur devient manipulé. Donc voilà, je trouve le film vraiment très très pesant, très empâté.
Michel ?
Non, moi c'est le contraire. Alors c'est un film qui avait été pas très bien accueilli après le succès de Seven. On le trouvait un peu prétentieux, etc. Moi, je trouve que c'est un film très intéressant. C'est un film sur un personnage qui pense totalement contrôler sa vie et qui perd le contrôle de sa vie. Et on pense à un thriller parce qu'effectivement, comme Seven, il est poursuivi, etc., dans ce jeu extrêmement, une sorte de pari faustien. Il ne comprend pas très bien ce qui lui arrive. Il y a des idées très, très belles. Par exemple, ce pantin qui est couché sur le ventre, dans la position exacte où, enfant, il a vu son père mort en se jetant par la fenêtre. Il y a des tas d'idées comme ça, extrêmement... Et le film est visuellement extrêmement inventif. Je trouve Michael Douglas très impressionnant dans ce film. Donc je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est un film très intéressant à redécouvrir.
Et Nicolas ?
Oui, moi je suis un peu entre Michel et entre...
On n'est pas loin de l'idée d'ailleurs que du film de Nicolas Bedos après, hein, avec cette société
oui,
de spectacles.
Oui, c'est ce que je me suis dit.
Sauf que c'est un rêve et pas un cauchemar.
C'est ce qu'on appelle les escape games aujourd'hui, qui étaient très à la mode avant la Covid. Et effectivement, oui, alors moi je suis un peu entre Michel et entre Jean-Marc. C'est-à-dire que je suis fasciné toujours par le style de Fincher. Il y a une maîtrise, je trouve déjà dans ce film-là, qui doit être son troisième ou quatrième, je ne sais plus, qui est assez folle. Et c'est marrant de le mettre en parallèle avec Fight Club qui arrive juste après, parce que là c'est vraiment l'Amérique élitaire, c'est vraiment comment ce personnage de Michael Douglas est coupé du monde tellement il est isolé dans sa tour. C'est un peu Citizen Kane presque, et c'est intéressant de mettre en parallèle avec Fight Club, qui va évoquer une autre facette de l'Amérique. Après, je sens vraiment qu'il ne sait pas quoi faire de son film au bout de la moitié. Il sait pas trop s'il est dans Surprise Surprise ou Les Chasses du Comte Zaroff, quoi. il y a vraiment cette idée là et je crois qu'ils avaient plusieurs fins, ils ont tourné plusieurs fins, et on sent qu'ils maîtrisent pas vraiment ce qu'il a envie de raconter. Et je trouve ça un peu dommage, parce qu'effectivement, il y a une maîtrise de la mise en scène qui est dingue. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à retrouver Douglas dans son rôle vraiment favori de l'époque, c'est-à-dire l'Américain
satisé. Du début à la fin, il joue de la même manière.
Oui, mais c'est ça qui est problématique aussi, c'est que le personnage, on sent qu'il ne sait... Fincher n'a pas su le diriger, n'a pas su vraiment quoi en faire. Après, c'est intéressant aussi de voir à quel point Fincher, mine de rien, a eu une influence, même sur des films mineurs comme celui-là. Quand on voit le générique de ce film, celui de la série Succession, qui est une série assez... qui a eu beaucoup de succès récemment et assez passionnante, et qui raconte pratiquement... c'est calqué, et il y a plusieurs comme ça. On peut voir l'influence de Fincher sur ce qui se fait aujourd'hui. C'est assez dingue, même sur des films un peu mineurs comme celui-là.
Sophie,
moi je trouve que la fin, cette fin postiche là, effondre le film, quoi. Elle marche pas du tout et elle va pas du tout, et elle me rappelle pourquoi j'aime pas Fincher en fait, parce que Et une fois que j'ai dit ça, mais j'y reviendrai sur les défauts du film à mon sens, je trouve qu'il y a un truc quand même qui est formidable à voir aujourd'hui et qui est un plaisir que le spectateur de 97 n'a pas pu avoir, c'est de voir à quel point à cette époque-là, alors qu'on est encore au pré-numérique, il préfigure le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire ce grand jeu où il y a cette espèce d'entité invisible dont on ne sait pas si elle existe pour notre grand plaisir ou pour notre pire malheur et qui, parce qu'on lui cède un peu de terrain et qu'on fait quelques tests, rentre dans notre vie et viole notre intimité, et ben c'est les GAFA, c'est les data et compagnie d'aujourd'hui. Et ça, chapeau l'artiste quand même, parce qu'il l'a pressenti avant tout le monde. Et ça, aujourd'hui, on peut le mesurer, et ça, c'est chouette. Moi, j'ai pris du plaisir pendant le film, malgré le monocorde Michael Douglas, mais cette fin... au fond, il veut nous faire une épopée intérieure, mais cette épopée intérieure, il est très fort sur le fait de créer du mécanisme, sur des choses comme ça. Mais je trouve que tout ce qui se rapporte à l'humain, à l'âme, oui, à cette intériorité humaine, il est vain. Et la fin, elle effondre tout parce que tout à coup, on dit bon, c'est factice, tout ça est factice, tout ça. C'est une usine à gaz, tout ça pour ça.
Mais c'est de la marionnette.
C'est ça qu'on se dit. Et je trouve que c'est dommage.
C'est The Game de David Fincher, qui ressort, je le disais, à l'atelier d'images, un film plus récent encore. On s'approche comme ça lentement de la date de naissance de Nicolas Jalaire, puisqu'il date de 1999. C'est L'Anglais de Steven Soderbergh, petit noir serré d'1h30, avec Terence Stamp, Peter Fonda, Louise Guzman, qui ressort en DVD Blu-ray encore à l'atelier d'images. Décidément producteur de beaucoup de rééditions ces temps-ci, Wilson, Terence Stamp, sort d'une prison anglaise et part pour Los Angeles afin d'enquêter sur la mort suspecte de sa fille Jenny, qui avait une liaison avec un producteur de disques et pour la venger. Devant lui, évidemment, un monde de malfrats et des bas-fonds américains qu'il ne connaît pas du tout. Ça canarde beaucoup. C'est le genre de film dont j'ai envie de dire que c'est une curiosité.
Sophie. Moi, j'aime beaucoup le film. Je trouve que c'est un petit bijou.
Très tu vas jusque-là, jusqu'au bijou.
Oui, parce que ce n'est pas le film qu'il paraît être. C'est un film très élégant qui est en apparence effectivement une vengeance et qui, me semble-t-il, explore tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est une exploration de ce qu'est devenu ce pays, hein, cette Californie que Soderbergh filme dans des ors tout en montrant des entrailles putrides et corrompues. Et on a le sentiment qu'il s'est dit, tiens, je vais mettre un glaçon anglais là-dedans pour voir ce que ça donne. Et on sait que c'est le glaçon qui va avoir le dessus. Alors, c'est très intéressant parce qu'il s'impose. Et tout à coup, le film adopte le régime de combustion de Terence Stamp. Il devient mélancolique, il devient à la fois déterminé et en même temps extrêmement calme et extrêmement... Et il y a des détails que je trouve très, très, très beaux. Par exemple, il visite la maison de Peter Fonda, qui, par parenthèse, incarne cette Californie devenue un peu putride, etc. Et il visite sa maison en vitesse parce qu'il sait que ça a été le petit ami de sa fille. Et tout à coup, au détour d'un escalier, il tombe sur la photo de sa fille. Et ce moment est très fort. Et il y a une suite que je ne révélerai pas, mais qui est très belle, je trouve, à ce moment-là, dans le film. Et tout à coup, on s'aperçoit que c'est un film existentiel. Et quand on voit l'image de Terence Stamp jeune dans le film de Ken Loach qui apparaît là, on se dit, mais c'est un film sur la traversée de la vie, en fait. Et c'est pour ça que je le trouve très beau.
Michel ?
Je trouve que c'est un film assez étonnant. Surtout, on se dit, on ne verrait jamais ça dans une série. C'est-à-dire un cinéaste qui invente, qui a des audaces. Alors, dans le supplément, dans le bonus...
Pourquoi tu dis ça ? Il y a des séries qui inventent et qui ont des audaces, quand même.
Si vous pensez qu'il y a des séries comme « Il reçut mon amour » ou « 2001 l'Odyssée de l'espace » ou « Citizen Kane », vous me le direz, je les regarderai avec passion.
Je ne crois pas que l'anglais de Soderbergh soit « Il reçut mon amour ».
Je dis simplement qu'il y a...
Je pense que c'est plus proche d'une série que « Il reçut mon amour ».
Soderbergh est tout de même sous-estimé parmi les jeunes cinéastes qui sont apparus il y a 40 ans. C'est un type extrêmement inventif, extrêmement original. Le film est sous l'influence de Alain René, évidemment, c'est son dieu dans le travail qu'il fait sur la mémoire et sur le travail du montage, etc. Et de Bourman, parce qu'on pense au point de non-retour, puisque c'est la vengeance de quelqu'un qui sort de prison et qui veut se venger. Là, c'est pour la mort de sa fille et non pas la mort de sa femme, comme dans le point de non-retour. Donc c'est un film plein d'idées visuelles, une photographie magnifique de Ed Lachman, une Amérique qui ressemble à des piscines de David Hockney, alors que le scénariste, c'est le fils de Kittage, c'est pas du tout le même genre de peinture. Donc c'est un film que j'ai trouvé. Et l'idée, par exemple, de prendre le vieux Ken Loach, de prendre ses acteurs, deux icônes, Terence Stamp, de prendre Terence Stamp comme il était 40 ans plus tôt, comme une icône des années 60, et de le planter aujourd'hui, et de le faire apparaître dans un autre film jeune, je trouve que c'est une idée formidable.
Jean-Marc ?
Je ne peux pas vraiment parler parce que je n'ai pas eu le temps de le revoir. Je garde le souvenir d'un film voulant, de manière effrénée, être stylé, jusqu'au risque d'être dans un formalisme un peu vide, mais aussi de ma joie de revoir à ce moment-là, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, Terrence Stamp, que j'avais trouvé épatant vraiment dans le film.
Et Nicolas ?
Alors ce film, je l'ai vu à la sortie, en projection de presse.
J'étais très jeune, mais
alors. C'est étonnant, parce que moi,
t'étais un petit garçon, alors.
Et t'as tout compris ?
Mais je le tenais, alors, je le tenais vraiment pour un des sommets de Soderbergh, et j'avais un très très bon souvenir, et j'aurais, tout ce qu'a dit Michel, j'aurais signé avant de le revoir. Et effectivement, je trouve très belle l'idée d'utiliser le Stamp dans le Kendo à ses débuts pour figurer sa jeunesse. Je trouve très beau la lecture que vous en avez, mais en le revoyant, moi, ce qui m'a choqué, c'est à quel point l'esthétique et l'exercice de style est daté aujourd'hui. Et tu parlais, Michel, justement de la série. Je ne vais pas dire que la série est plus audacieuse formellement, quoique les séries en général sont plus audacieuses formellement. Mais aujourd'hui, au début, le projet de départ, c'est vraiment une idée de série B. C'est un scénario très simple, très basique de revanche. Et Soderbergh le raconte dans les bonus. Il a fait le premier montage, c'était linéaire. Il a fait un premier montage linéaire, il s'est rendu compte que ça marchait pas.
Il a fait un très bon film.
Donc il a recréé, il en a fait un bon film en déstructurant le montage, en faisant des évocations de souvenirs comme ça. Et ça, c'est très intéressant, sauf que je trouve que vraiment l'esthétique du film et cet exercice de style là dans sa forme a pris un vrai coup de vieux,
c'est un peu maniéré.
Et du coup je vois le procédé, je vois le maniérisme qu'à l'époque peut-être je trouvais plus moderne. Je trouve que c'est un film, une vraie curiosité, qui a une vraie cohérence dans le film et dans cette manière de créer du souvenir, et puis ce fantasme de cinéphile de faire rencontrer la contre-culture américaine et ce polar rugueux à l'anglaise. Mais j'étais un petit peu déçu, vraiment. Il y a une petite déception en revoyant.
C'est l'anglais de Soderbergh et c'est à l'atelier d'image, Le Monde lui appartient, film américain en technicolor. Ça dit quelque chose de technicolor, Nicolas ? De Raoul Walsh, sorti en 1952, qui ressort en copie restaurée aux éditions BQHL, avec Gregory Peck dans le rôle du capitaine et chasseur de phoques, Jonathan Clark, qui tombe fou amoureux dans le San Francisco du milieu du 19e, de la comtesse russe Marina Selanova, nièce du tsar, incarnée par Anne Bless. Et il va tenter de l'arracher des mains du prince à qui elle est promise et aller jusqu'en Alaska pour ses beaux yeux, mère déchaînée, combat romanesque en diable. Et Gregory Peck, pour la première fois devant la caméra de Raoul Walsh, évidemment impérial, en prime, Anthony Quinn dans le rôle du pirate surnommé Le Portugais, un film d'aventure très kitsch. Alors Bertrand Tavernier m'a écrit en me disant « Je trouve dommage que pour parler de Walsh, vous preniez un titre certes réjouissant, bien mené et coloré comme Le Monde nous appartient, mais qui est inférieur à La Vallée de la Peur, un de ses 10 ou 15 chefs-d'œuvre, qui devrait aussi vous passionner, car le sujet s'inspire du maître de Ballantrae de Stephen Stone. » Malgré tout, Michel, tu le conseilles?
Oui, non, je suis d'accord avec Tavernier. Il a fait 20 films sublimes. C'est un des plus grands cinéastes au monde, encore méconnu par rapport à Hawks ou à d'autres. Mais néanmoins, on prend un grand plaisir à ce film. D'abord, ne serait-ce que l'interprétation d'Anthony Quinn, qui est absolument formidable dans le rôle d'un Mexicain, d'un Portugais.
D'un Portugais.
Absolument hilarant. Walsh met en scène des bagarres, par exemple, dans un grand hôtel où il y a deux types de marins qui s'affrontent, qui détruisent tout, etc. C'est absolument incroyable. Il y a une course de voiliers, par exemple, qui est magnifique. C'est juste avant qu'on passe à la vapeur. Donc il y a une compétition entre deux voiliers dans la mer et Walsh sait filmer les éléments. Donc il y a un très grand plaisir, mais c'est un film très mineur. Hein, je veux dire, c'est pas du tout pour dire que c'est un chef-d'œuvre. C'est un film très mineur. C'est un film de 52 qui est un film complètement anticommuniste, évidemment. Ça se passe chez les tsars, mais en fait, on vise la Russie, qui est l'ennemi de l'époque. Mais je pense que Walsh, en fait, il pensait pas plus de bien des tsars que de Staline. C'était un Américain libéral, il croyait à la démocratie. Donc il a fait ce film, à juste titre, pour stigmatiser la Russie éternelle.
Jean-Marc ?
Oui, c'est à la fois mineur et vraiment très très bien. Je pense que c'est vraiment des plus grands chefs opérateurs qui a éclairé le film, c'est Russell Metty, qui sera le chef-op de Spartacus de Kubrick, mais surtout des très grands films de Douglas Sirk. Et je pense que personne n'a su enregistrer la densité colorée du monde que Russell Metty. Et je trouve que sur le vert émeraude d'une étoffe, sur un rouge brun, il y a vraiment, aussi bien chez Sirk que dans ce film-là, quelque chose qui est vraiment sublime, qui est vraiment la pure poésie du technicolor. Et même si c'est un petit Walsh, il y a quelque chose de l'ordre de la limpidité, d'une espèce de frontalité, de très direct dans les mouvements d'appareil. Il n'y a vraiment aucun chichi. C'est le contraire de Albert Lewin, de Pandora, que j'aime pourtant aussi beaucoup. Mais il y a quelque chose comme ça de très brut, formellement, que je trouve très, très beau dans le film.
Sophie et Nicolas iront le revoir ou trouveront le moyen de le revoir, j'espère.
Oui.
C'est donc « Le monde lui appartient » de Raoul Walsh et c'est, je le rappelle, aux éditions BQHL. Allez, on termine rapidement avec « L'espion qui venait du froid ». Un mois, vous savez, après la mort de John le Carré, dont presque tous les romans ont inspiré des films, de la maison Russie à la taupe et du tailleur de Panama à la constance du jardinier. Voici donc que sort en version restaurée aux éditions ESC cet espion qui venait du froid, réalisé en 65 par Martin Ritt avec Robert Davies dans le rôle de l'agent récurrent George Smiley, Richard Burton en Alec Limas, agent britannique à Berlin-Ouest, qui tombe amoureux de la libraire, ça j'avais oublié, britannique et communiste, Liz Gold, qui est jouée par Claire Bloom, Oscar Werner en espion est-allemand, et tout se déroule évidemment pendant la guerre froide, prétendument viré par sa hiérarchie. Alec Limas se voit proposé par des agents communistes de passer à l'Est, joue le double jeu pour discréditer le contre-espionnage est-allemand. Seulement voilà, rien ne se passe comme prévu. Jean-Marc ?
Vraiment, c'est un film qui m'inspire très peu, que je ne connaissais, que j'avais jamais vu, que j'ai découvert et que j'ai trouvé vraiment d'un ennui de plomb, pour le coup.
Ah ouais ?
Et
parce que tu le trouves démodé ou...
Non, pas vraiment. Je trouve que vraiment le film ne raconte rien de plus que ce qu'il raconte. C'est-à-dire qu'à la fois, il n'y a pas un inconscient de cinéaste très fort qui chargerait les images d'autre chose que le simple enchaînement des péripéties. Je trouve que c'est que du récit, que c'est au ras du récit, et que ce récit, je le trouve très fastidieux dans son exposition, que Richard Burton, je le trouve extrêmement monolithique, que je trouve que tout ce qui est le mur, la frontière, cette thématique est filmée vraiment sans grâce. Voilà,
voilà, c'est clair, c'est mon tour.
Je suis d'accord avec Jean-Marc. Au début, j'ai été un peu subjuguée. Je me suis dit, tiens, c'est ce noir et blanc, cet homme qui porte comme ça toute la misère du monde, qui a conscience finalement de sa propre impuissance face au bien, face au mal, parce qu'il a conscience qu'il est qu'un maillon de la chaîne, etc. Ça peut être intéressant. Et puis très vite, l'intrigue étant très complexe et n'étant expliquée que par des dialogues.
Elle, entre parenthèses, elle passait mieux dans le roman.
Oui, évidemment, évidemment. Film, mais hein. Là, franchement, il n'y a que les dialogues qui prennent en charge l'intrigue. Et du coup, tout ce qui pourrait aérer ça, mettre de l'incarnation, devenir un peu charnel, qui est la liaison qu'il a avec, justement, avec Claire Bloom. Et je trouve que c'est mal exploité, c'est très escamoté, cette histoire. Et elle est d'autant plus importante qu'évidemment, à la fin, elle compte. Et je trouve que c'est mal filmé, les rapports avec l'épicier, par exemple. Tout à coup, là, ça sonne faux, ça ne marche pas. Et c'est les seules petites respirations qui pourraient rendre le récit un peu moins fastidieux. Et la fin est par trop édifiante. Du coup, ça reste un film quand même très didactique.
Il y a d'autres Le Carré qu'on peut revoir, si je veux dire, au cinéma, et qui sont plus palpitants. Nicolas ?
Je pourrais rejoindre un peu ce qui vient d'être dit. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que j'essaie de le replacer. Moi, je ne l'avais pas vu non plus, je ne le connaissais pas du tout. Et je l'ai replacé à l'année d'où il a été fait. Et je pense qu'il y a vraiment une vraie rupture. Mine de rien, il y a eu une petite révolution, je pense, dans la manière dont le film montre le milieu des agents secrets et dont le livre le racontait. C'est la même année qu'Opération Tonnerre, quand on parle des James Bond. Parce que les espions au cinéma, c'était James Bond. Et quand on voit que c'est la même année qu'Opération Tonnerre, où là, c'était le spectaculaire, l'exotisme, et c'était le basculement dans le blockbuster et la superproduction. Là, c'est vraiment le contrepoint de ça. Et je pense une vision du contre-espionnage, de l'espionnage qui est assez nouvelle pour l'époque. Et ce côté grisâtre qui aujourd'hui nous ennuie, je le trouve plutôt bien rendu. Surtout, moi, je trouve que Burton est très, très bien. Et il y a comme ça, il y a quelques répliques, notamment quand il dit, on lui demande si son écriture est lisible à un moment d'un entretien, il dit sauf le week-end. C'est-à-dire, en plus, ça joue sur son propre alcoolisme. Il y a quelque chose d'assez beau dans le personnage. Et alors, après, effectivement, comme le dit Jean-Marc, ça ne raconte pas plus que ce qu'est le film. Et je conseillerais plutôt de voir, par exemple, La Taupe, un sujet de Thomas Alfredson qui est sorti en 2014, qui raconte la même chose, mais qui l'emmène ailleurs, dans une mélancolie, quelque chose sur ce qu'étaient des hommes et ce qu'ils sont devenus, sur la solitude, la désillusion, qui est beaucoup plus beau. C'est presque la même histoire, mais avec une flamboyance de mise en scène qui va au-delà.
Michel ?
Je suis moins sévère que Jean-Marc et Sophie. Je trouve que, d'abord, c'est vrai que Le Carré disait que c'était l'adaptation, pour lui, la plus fidèle à son esprit. Je trouve qu'on retrouve vraiment le climat de Le Carré dans cette grisaille. Alors, la photo est magnifique d'Oswald Maurice, qui avait fait L'homme qui voulut être roi, c'est-à-dire à l'opposé de la palette. C'est une grisaille, mais je trouve, par exemple, les plans d'ouverture sur Berlin sont restitués magnifiquement. Et d'autre part, cette grisaille, c'est aussi la grisaille du